Merg cu picioarele.
Voyager în Qatar nu se viaja.
Calul alergă.
Voyager în portughez se viaja.
Voyager se viajar.
Voyager în rus se путешествовать.
Voyager în italian se viajare.
Un burger se asafar.
Voyager în arab se safar.
Voyager în bulgar se atiu.
Donde vas?
Et toi tu vas où?
Moi je vais à Luxembourg avec Paul.
Et toi tu vas où?
Você, on se va.
Moi je vais en Rwanda avec mon dada.
Je vais en Zambie avec un zombie.
Moi je vais à Chypre à dos de singe.
Moi je vais à Lituanie avec mon lit.
Tu tu onde te duci?
Et toi tu vas où?
Je vais au Kazakhstan et je vais prendre tout mon temps.
Moi je vais au Pakistan à vélo.
Je vais en Iran en pédalo.
Je vais au Zimbabwe en canoë.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur REM, la radio étrangère du monde.
Nous sommes des élèves du collège Las Cases et nous avons préparé une émission sur le thème du voyage.
Ce thème nous a intéressés parce que nous sommes tous des élèves nouvellement arrivés en France et que nous avons tous fait au moins un voyage. Mais pour approfondir la question, nous sommes aussi allés à la rencontre des gens.
Nous vous proposons donc de faire un beau voyage en notre compagnie. Vous êtes OK?
Oui. Alors attention, l'émission va bientôt partir. Attachez vos ceintures, nous allons décoller.
Radio étrangère du monde.
Depuis le collège Las Cases.
Depuis le collège Las Cases.
Pour notre premier escale, nous allons être escortés par Ayoub et Adriana qui vont nous parler du voyage et du tourisme. À vous.
Nous sommes allés faire un micro-trottoir. Micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on a pris les micros et qu'on a interrogé les gens dans la rue. On a notamment rencontré un papy qui nous a parlé de sa conception des voyages. Nous, on est des collégiens, forcément on est jeunes. Alors il nous a appris l'expression suivante.
Les voyages forment la jeunesse. Ça veut dire que les voyages vont te former, vont t'apprendre beaucoup de choses et ils vont te rendre un peu plus intelligent. C'est ça que ça veut dire. Et un peu plus ouvert sur le monde. Voilà ce que ça veut dire. Que si tu restes chez toi à te regarder le nombril, tu ne comprends pas ce qui se passe ailleurs.
Nous, quand on pense au voyage, on pense au grand voyage qu'on a fait pour venir habiter en France. Mais quand on interroge les gens dans la rue sur les voyages, voici leur réponse.
Pourquoi j'ai voyagé? C'est à l'occasion des vacances et puis surtout pour connaître d'autres horizons, d'autres pays, d'autres peuples.
Pour plaisir, pour voir un peu ce qui se passe ailleurs.
En vacances, à chaque fois, ça a été pour faire du tourisme.
Je suis contente, je découvre de nouveaux paysages, des nouvelles personnes. Voilà.
Pues para descubrir lugares, descubrir el mundo y conocer otras culturas, todo eso.
Je sais pas, pour le plaisir, je pense.
Pour parler de voyage touristique, nous avons aussi Vincent.
Merci Adriana. Je vais parler d'un voyage que j'ai fait à l'Italie, un voyage touristique. Ça fait 2 mois. J'ai pris le train Rochette. On est arrivé à Venise, on a visité Bologne, Pise et surtout Florence. Avant de partir, j'avais joué un jeu qui s'est passé à Florence. Et en arrivant, j'ai eu l'impression de déjà connaître cette ville. Et c'était impressionnant. À Florence, nous sommes restés 3 jours. Nous avons dormi à l'hôtel. Nous nous sommes beaucoup promenés dans la ville. Nous avons visité des monuments, des églises. Je suis montée en haut d'une tour. De là-haut, on voyait toute la ville. C'est très joli. Dans les restaurants, je mangeais des pâtes de pizza. C'est très bon. Moi, j'ai un passeport italien parce que le grand-père de mon père a été italien. Et maintenant, j'ai une histoire de plus à raconter à mes amis.
Touloulou, voyage, voyage.
Le train en provenance de Surcroît va arriver dans quelques instants à la gare.
R-E-R-C,
c'est
la radio.
Si la radio étrangère demande.
Merci, tous ces récits sont une invitation au voyage à la détente.
Oui, mais on ne voyage pas toujours pour les vacances.
Tu as raison, il y a aussi des gens qui voyagent pour le travail. C'est ce que vont nous montrer Marwan et Ilias.
Abbas.
Il y a beaucoup de monde qui voyage pour travailler, comme mon père par exemple. Moi, je suis à Montpellier depuis 8 mois. J'habite avec mon père, ma grand-mère, mes deux frères et mon cousin. Il y a 10 ans, mon père est venu en France pour chercher du travail, car il n'en trouvait pas au Maroc. Ici, il a trouvé du travail en tant que maçon. Moi, je l'ai rejoint pour étudier le français. Pendant les vacances, toute ma famille va retourner au Maroc et je vais revoir ma mère. Ici, ma mère me manque, mais je suis quand même contente d'être en France parce que c'est bien pour étudier et pour travailler. À ce sujet, nous allons maintenant écouter le papier que Elias a préparé.
Bonjour. Je vais tenter de parler de ceux qui voyagent pour travailler. En fait, beaucoup de gens partent pour chercher d'emploi. Déjà, il y a ceux qui partent dans des autres pays pour acheter des trucs qui sont moins chers et pour les revendre. Mais là, je parle seulement du commerce. Mais souvent, quand les gens émigrent, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas du travail chez eux. Et la plupart des personnes trouvent du travail dans les bâtiments. Ma mère, elle trouvait du travail dans une clinique. Et puis, il y a mes voisins qui sont venus du Maroc. Le père de mon voisin est conducteur de tramway. Ça montre qu'on peut trouver du travail dans un autre pays. Mais il y a une difficulté importante pour les immigrés en France. C'est les papiers. C'est souvent plus facile de trouver du travail que d'avoir des papiers.
Merci, Ilias, pour tes explications. On a bien compris qu'on était parfois amené à voyager pour des raisons économiques.
Mais on peut aussi être obligé de voyager pour des raisons plus politiques. À ce sujet, nous allons écouter Eric Naz.
En effet, on est parfois obligé de voyager, de s'exiler, pour fuir son pays d'origine. C'est le cas de la famille qui a dû quitter l'Arménie. C'était dangereux de rester là-bas. Mais l'exil fait aussi partie de l'histoire de Tamerlan que l'on va écouter maintenant.
Je suis né en Tchétchénie à Grozny, quand j'avais 3 ans. Je suis parti en Russie, quand n'a pas été trop difficile, car la langue, je le connaissais. En plus, il y avait toute ma famille avec moi. En Russie, j'ai resté 5 ans. Après, je suis reparti en Tchétchénie. Ce n'était pas trop bien de retourner chez moi, car il y avait la guerre à Grozny. Alors nous sommes allés à Bamout, une autre ville de Tchétchénie. Et là, c'était bien. C'était beau, il y avait beaucoup de trucs neufs. Là-bas, j'ai retrouvé ma famille que je n'ai pas vue depuis 5 ans. Je me suis amusée avec mes cousins. Mon père est un entrepreneur. Il voulait construire des maisons. Mais c'était presque impossible de rester en ville à cause de la guerre. En plus, il voulait que je fasse de belles études. Alors, comme il ne pouvait pas travailler là-bas, on est venu en France. Quand je suis arrivé en France, la première année, c'était pas bien, car je n'avais pas de copains et je ne savais pas parler français. En France, j'avais juste 2 tantes et des cousins que je connaissais un peu. Puis, je suis allé au collège et je me suis alors fait plein de copains. J'ai bien progressé en français et c'est trop bien.
Quand on connaît l'exil, on connaît le mal des pays et on regrette parfois de notre pays d'origine. Et ça, c'est l'origine de nombreuses chansons. Marwan, tu en connais une ?
Oui, je la connais.
ناس ناس ما يريخ ما يريخ هذا يغي زمان او النهار يوم فين او النهار يوم فين ما غاز يغي زمان ناس ناس ما يريخ ما يريخ هذا يغي زمان.
Merci Marwan, c'est une belle chanson qui me rappelle mes racines au Maroc. Souvent les chansons nous aident à nous souvenir et c'est agréable.
Ah, on est bien là.
Si.
Ah ouais, c'est trop bien la plage.
C'est comme ça que j'aime voyager.
Ouais, moi aussi.
REM, Radio étrangère du monde, sur toutes les plages. De Bamako à Sao Paulo, en passant par Copa Cabana.
Radio étrangère du monde, sur toutes les plages.
Vous êtes toujours avec nous ? Nous allons poursuivre notre voyage et parler d'un moment important que nous avons tous vécu, qui nous a tous marqué, l'arrivée en France.
Erdogan et Marwan, pouvez-vous nous parler de votre expérience ?
Moi, pour venir habiter à Montpellier, j'ai voyagé pendant 3 jours en bus avec mon père, ma mère et mes 2 petits frères. J'essayais d'imaginer la France et quand je suis arrivé, j'étais content parce que c'était beau. Maintenant, c'est parler de moi. Nous allons écouter le témoignage de Marwan qui va nous raconter sa propre arrivée en France.
Un jour, ma mère m'a dit qu'on allait habiter en France. J'avais 2 ans. J'étais content parce que mon père était parti depuis 1 an pour travailler comme maçon. Il me manque. Avec ma mère, ma petite sœur et mon grand frère, on est allé à Fès pour chercher les visas et acheter les billets. Ensuite, on est retourné dans ma ville, Irachidia, pour dire au revoir à tout le monde. Ils étaient tristes de nous voir partir. Et puis, on a pris l'avion jusqu'à Montpellier. C'était la première fois que je monte dans un avion. J'avais peur de tomber et ma sœur aussi. Elle pleurait. Mon père est venu nous chercher à l'aéroport. Il faisait moins chaud que chez moi. J'étais très content de revoir mon père, mon oncle et ma tante. On a fait une fête et on a beaucoup mangé. C'était une bonne journée. Je suis allé avec mon oncle et mon frère au centre de Montpellier. Et j'étais bien. J'ai trouvé que tout était beau. Il y a des choses que je n'avais jamais vues. Le tram que j'ai trouvé bizarre. Des grands immeubles. Les gens étaient habillés à la mode. Alors que chez moi, ils ont habillé classique. Mes premiers jours à Montpellier étaient quand même un peu difficiles. Parce que je ne comprenais pas. Presque rien. Je ne connaissais pas beaucoup de monde. Et je reste souvent tout seul à la maison. Je jouais à l'ordinateur et je m'ennuyais.
Merci. Et ce thème de l'arrivée est également abordé par Mohamed que les élèves sont allés interviewer.
Younes, racontez-nous un peu comment s'est passé le reportage.
Bonjour. Aujourd'hui, on a fait un reportage avec Monsieur Mohamed qui est âgé de 50 ans. Il est venu en France à l'âge de 18 ans pour continuer ses études d'agriculture. Maintenant, il travaille au conseil général de l'Hérault. Il nous avait donné un rendez-vous à Celle-Neuve, mais finalement, il est venu au collège Lascaz. On est parti dans une salle et on lui a posé des questions. C'était bien. Mohamed était une personne très sympa. Je vous passe le reportage.
pouvez-vous nous raconter votre première journée en France?
C'était au milieu d'après-midi. Je vois encore les parents derrière. Je prends un taxi où il y a 8 personnes ou 9 personnes. Et c'est les larmes dans les yeux. Je ne retourne même pas regarder mes parents. Je pars au milieu de la route. Il y a un passager qui me dit, mais tiens, pourquoi tu pleures? J'ai dit, ben tiens, je pars en France pour étudier. Donc ben, il me dit, ben, ça y est, tais-toi. Tu vas étudier après. Le matin ou l'après-midi, j'ai pris le train de Fès et direction Narbonne. Donc, on a fait 36 heures ou 38 heures de voyage avec, dans ma besace, moi, j'avais un bon poulet paysan et 6 francs dans la poche. Les 6 francs étaient là pour, et le billet, bien entendu, de train, les 6 francs étaient là pour quand j'arrive à Narbonne. Je prends le combiné, je téléphone à ma sœur pour qu'elle vienne me chercher. Et c'est tout.
Quelle a été la première observation en arrivant en France?
Je pense que la première observation qui m'a bien touché, c'est quand je suis arrivé à Gardanne, au lycée de Gardanne, là où j'ai fait mes études, j'ai regardé 2 personnes en train de s'embrasser. Ça, c'était une observation. Ça, c'était quelque chose qui était différent, que je ne voyais pas. Et que, bon, on s'est observé deux jeunes en train de s'embrasser, de s'envoyer des pelles. Ça, c'est l'observation, pour moi, qui était capitale. Voilà.
Merci pour ce témoignage touchant.
Et si maintenant, on quittait un peu la réalité, à toi, Ilias, de nous emmener dans le monde de la fiction.
Des fois, quand on veut faire réfléchir, on raconte une histoire. Et à la radio, ça s'appelle une fiction. La fiction, c'est une imagination. C'est quelque chose qui n'existe pas. Comme, par exemple, le ciel en chocolat, la maison en bonbon ou la table en papier que vous allez entendre. C'est un peu comme la science-fiction. Mais c'est dur à écrire parce qu'il faut réfléchir beaucoup et se mettre d'accord entre nous. Et puis après, on doit l'enregistrer. Mais on y est arrivé et on vous laisse écouter tout ça avec les voix d'Ilias, d'Adriana et de Majdan dans vos oreilles.
Directionlandia.
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 Je ne sais pas où je suis.
Je me suis réveillée dans un lit que je ne connais pas.
Je commence à ouvrir les yeux et je vois que tout est différent.
On est des naufragés.
Directionlandia.
Je m'appelle Ricky Alvarez. J'étais dans un petit bateau. Il y a eu une tempête, mais je me suis retrouvé ici. Et toi?
Moi, c'est Babi. Hier, je me suis couché chez moi et quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit inconnu, en chocolat.
Ah oui, en chocolat?
Je suis Perry. J'ai pris le bateau et j'ai dû nager pour venir ici.
Vous avez vu, le sol est en chantilly, le ciel en chocolat et les maisons en bonbon.
Waouh, le rêve.
Allons explorer l'île.
Waouh. C'est trop beau. Il y a plein de grands ballons qui poussent de partout.
Ça sent bon. Regarde les arbres.
Ah oui. On dirait des sangliers rôtis.
Oh, regardez là-bas. Des soldats en toge.
Ils s'en foutent. Ils mangent allongés. Des grappes de pierre.
Moi, je préférerais manger leur maison à caramel.
Ils se lèvent.
Et marchent comme des soldats romains.
C'est n'importe quoi. Ils jouent de la flûte pour s'exprimer.
Je ne comprends pas ce qu'ils disent.
Heureusement qu'on s'est rencontrés tous les trois.
Non, au moins, on peut communiquer ensemble.
Mais ça serait vraiment bien de trouver quelqu'un qui nous dise où on est.
Ils ont l'air de ne pas nous voir.
Vraiment, je ne capte rien.
Ah oui, c'est étrange ça.
C'est comme si on était transparent.
J'ai l'impression qu'on est prisonnier.
Mais non, prisonnier de qui?
Je sais pas.
C'est vrai que c'est étrange. Il faut qu'on cherche qui nous retient dans ce monde.
On dirait un rêve.
Mais nous, on rêve pas. On est bien réel.
Mais on est peut-être dans le rêve de quelqu'un d'autre alors. Attends. Gâteau, sanglier, Romain fou.
Je sais. C'est Jules César.
Mais non, c'est quelque chose de plus logique. On doit être de la tête d'Obélix.
Ah ouais, je comprends mieux le sanglier. D'ailleurs, écoutez bien, on l'entend dans le fond.
Ah ouais, il ronfle.
Mais qu'est-ce qu'on va faire?
On va lui dire quelque chose qui va le réveiller.
C'est une bonne idée.
Mais c'est pas bien de dire ça.
Mais on n'a pas le choix.
À trois, lui dit. 1, 2, 3.
Obélix! Obélix! Tu es gros!
Et là, je me suis réveillée en sursaut. C'est comme si je voyageais quand je rêve. Sauf que les voyages de rêve sont bien plus bizarres, plus drôles ou plus fous. On peut en faire toute la nuit. Et ils sont gratuits. La nuit prochaine, je ferai le tour du monde en dormant.
Réveille-toi!
Qu'est-ce qu'il y a?
Eh bien, l'émission n'est pas terminée. Et oui, on doit aussi parler du lien entre le voyage et la famille. Saïd, on t'écoute.
Je viens de Tilguir au Maroc et je suis arrivé en France il y a 9 mois pour vivre avec mon père et mes 4 frères. Mon père nous a ramenés parce que, selon lui, ici c'est mieux que là-bas pour étudier. Hélas, ma mère est restée au Maroc car mon père n'a pas pu obtenir de papiers pour toute la famille, malgré tout sa volonté. Avec le temps, ma mère me manque, et ça me fait du bien de l'appeler dès que je peux. Ma mère nous a donné l'autorisation de venir parce qu'elle pense que c'est mieux pour nous. Et maintenant, elle va essayer de nous rejoindre. Quand je suis arrivé, je ne comprenais pas les gens, et je n'avais pas d'amis. Mais un mois après, ça allait mieux. Maintenant, je me fais comprendre, j'ai vite progressé. Car j'avais commencé à apprendre le français au Maroc. J'avais du vocabulaire dans ma tête, j'avais juste besoin de pratique. Maintenant, je préfère la France au Maroc. Mais si l'école était mieux là-bas, que les profs n'étaient pas méchants et qu'on trouvait facilement du travail après de longues études, je préférais habiter au Maroc, à Tinguir. Tinguir est vraiment une très belle ville.
Merci Saïd pour ton témoignage. Maintenant, nous allons écouter un nouvel extrait de l'interview de Mohamed qui va nous parler de sa famille.
Est-ce que vos parents étaient d'accord quand vous êtes parti au Maroc?
Mes parents avaient un seul objectif, c'est de que je fasse mes études, que je réussisse premièrement. Et mes parents voyaient la réussite uniquement par l'école. Parce qu'on était des paysans pauvres, des paysans lambda avec une vache. Et encore, quand on a une vache, c'est déjà beaucoup. Donc pour eux, oui, il fallait y aller parce que c'était, comme je dirais, la vie l'a amené comme ça sur un plateau, il ne faut pas le rater. Il fallait continuer ses études pour réussir. Et je me souviens encore de ma mère qui me disait, bah maintenant je te dis de bien travailler, mais si tu ne réussis pas, ne m'appelle pas ma mère, appelle-moi la chienne. Donc c'était très grave. C'est-à-dire, appelle-moi à la chaîne si tu ne réussis pas. Et là, je peux te dire que c'était toujours le feu à la maison, sachant que mes parents étaient analphabètes. Donc c'est pas une, mes parents ne savaient ni lire ni écrire, et encore ne savaient pas tenir un stylo. Voilà. Donc oui, ils étaient d'accord. Oui, ils étaient d'accord pour que je vienne, et même au contraire.
Si vos enfants veulent changer de pays, est-ce que vous serez d'accord ?
Je pense que le voyage forme la jeunesse. Et je pense que le voyage est une expérience. Et je pense que si mes enfants veulent changer de pays, je pense que, oui, moi, je ne serai pas en désaccord. S'ils veulent changer de pays, parce que c'est une expérience enrichissante, parce que partir ailleurs, c'est, certes, on laisse les siens derrière, mais partir ailleurs, c'est rencontrer l'autre, rencontrer une expérience, c'est apprendre à être autonome. C'est apprendre, quand on est tout seul, par exemple, quand j'étais tout seul au lycée, et le week-end on était tout seul, eh bien, pour un petit paysan qui n'avait pas encore voyagé, c'était le premier long voyage qu'il avait fait, je vous promets que il fallait réussir son autonomie.
Notre voyage va bientôt se terminer. Mais pour certains, les voyages ne s'arrêtent jamais.
Ah oui, tu veux parler des Bédouins ou des Touaregs dans le désert?
Ben oui, mais pas seulement. Il y a aussi des peuples nomades en France. Et pour mieux connaître ces gens du voyage, nous sommes allés rencontrer une spécialiste.
Nous sommes dans la cafétéria de l'université Paul Valéry. On vient interroger une dame spécialiste pour les gens qui voyagent tous les jours.
Bonjour madame.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Je suis Gaëlle Aloiseau et je suis médiatrice départementale auprès des gens du voyage pour tout le département de l'Hérault.
Pouvez-vous nous expliquer qui sont les gens du voyage ?
Alors, les gens du voyage, ce sont des personnes qui vivent toute l'année en caravane. Donc, une caravane, c'est une cabane sur des roues qu'on attelle derrière une voiture. Donc, ça, c'est la définition que la France a choisie pour ces gens-là. Mais les gens du voyage sont très souvent des tziganes, des manouches, des gitans, des roms. Et Sinti, voilà. Il y a plein de définitions culturelles, mais on va rester simple sur la définition, on va dire administrative, des gens du voyage. Ce sont les gens qui vivent plus de 6 mois par an en caravane.
Pourquoi voyagent-ils ?
Alors, ils voyagent parce que c'est leur mode de vie. Donc, c'est pourquoi ils voyagent, il y a plein de raisons. C'est des raisons familiales, tout d'abord, c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui ne se séparent pas de la famille ou pas beaucoup, aussi des raisons économiques. En fait, ils vont avoir plusieurs métiers, chaque individu, chaque personne, enfin surtout les hommes aujourd'hui, a plusieurs métiers. Il va pouvoir faire de la peinture en bâtiment, de l'élagage, les marchés, tu vois, il a plusieurs métiers et suivant les saisons. Et il va pouvoir faire un métier dans telle région de France, un autre métier dans telle autre région, et il va voyager comme ça. Il y a aussi une autre raison qu'on trouve beaucoup ici à Montpellier, parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux, c'est qu'ils voyagent aussi pour accompagner leurs malades qui ont besoin de se faire soigner. Et alors aussi, il y a une autre dimension importante, c'est qu'ils voyagent pour des raisons religieuses, beaucoup.
Comment ils font pour l'eau et l'électricité ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est le principal problème qu'ils rencontrent. Parce qu'ils ne... quand on vit en caravane en France, c'est très compliqué de se raccorder au réseau. Normalement, ils y ont droit comme tout le monde. La loi prévoit qu'ils y aient droit. Mais les maires des communes, souvent, vont faire des blocages. Ils vont interdire, ou alors ils vont même débrancher l'eau, parfois, l'électricité. Ils vont utiliser ce qu'on appelle, ça c'est un moyen de pression pour les faire partir. Parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment acceptés. voilà, dans ce mode de vie-là. C'est un grand problème qu'ils rencontrent. Donc ils vont souvent dans les tribunaux à cause de ça.
Comment font-ils pour l'école de leurs enfants ?
Alors, pour scolariser leurs enfants, pareil, comme l'eau, l'électricité, c'est un droit fondamental, en fait, les enfants du voyage, ils sont aussi, comme les nouveaux arrivants, en fait, il peut y avoir des enseignants spécialisés dans les écoles qui peuvent les aider, en fait, à faire les devoirs, parce qu'ils ont souvent des rattrapages à faire. Donc, déjà, il y a la façon dont on les conçoit du point de vue de l'institution scolaire, c'est un peu comme vous, ces nouveaux arrivants, un peu étrangers. Et aussi, ils peuvent aller prendre des cours du CNED. Le CNED, c'est les cours par correspondance. Donc, ils le font à la maison. Mais c'est difficile, c'est pas la meilleure solution, parce que beaucoup de parents ne savent pas bien lire et écrire, et les devoirs sont pas forcément bien suivis.
Je vous remercie pour votre temps. Au revoir. À bientôt.
Mais merci à vous. Et ben voilà, j'espère que vous aurez appris des choses un petit peu. Vous connaissiez déjà tout ça un petit peu ou...
Pas du tout.
Non ? En Roumanie, tu connais un peu.
Il y a des gitans, mais moi je ne suis pas comme les autres. Je ne connais pas.
Tu ne les connais pas ?
Non.
Ouais, ouais. Ils ne sont pas en caravane en plus.
Je ne sais pas.
Ah ouais.
Et maintenant, on va parler d'un truc bizarre.
Oui, nous, quand on est arrivé en France, comme on venait du Mexique, on nous a dit « Ah, vous ne mangez que des tacos, alors ?»
Ça s'appelle un cliché, une idée fausse qu'on se fait sur les autres.
Par exemple, les Français aiment les fromages qui peuvent.
Les Américains sont obèses.
Les Chinois mangent des chiens.
Les Marocains sont salés.
Et les Italiens parlent avec les mains.
Je sais, les Écossais sont des radins.
Les Français, ils sont jamais contents.
En plus, ils sont voleurs.
Mais non, les Gitans sont des voleurs.
Les Américains sont les rois du monde.
Et enfin,
les Cubains dansent la salsa.
Et les Espagnols, les flamencos.
Nous, on était en fleu et on apprend à connaître des gens de tous les pays.
Alors, on sait bien que tout ça,
c'est n'importe quoi.
Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Vous pouvez détacher vos ceintures. Nous sommes arrivés. Nous espérons que vous avez passé un bon voyage avec nous. Et nous, c'est-à-dire Walid,
Madi,
Ayoub,
Adriana,
Vincent,
Marwan,
Ilyas,
Eric Naz,
Tamerlan,
Majda,
Erdogan,
Younes,
Ilyas,
Marwan,
Saïd,
Fernanda
et Sianja.
Merci à Mohamed et Gaëla qui ont répondu à nos questions. Merci aussi à Jean-Jacques, Galad et Tatiana de l'association Wakadia, qui signifie « On a quelque chose à dire à Madame Carretero et à Madame Faure, prof de FLE, pour nous avoir aidés à concevoir ce voyage. »
Au revoir.